RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage à Prague aujourd'hui, 1968. Ça a été une année mouvementée dans le monde et très mouvementée dans la Tchécoslovaquie de l'époque, militairement envahie pendant l'été par les troupes de l'URSS et d'autres pays du bloc communiste. Cette invasion du pays a brutalement marqué la fin de la période de liberté relative appelée le printemps de Prague, période pendant laquelle le premier secrétaire du parti communiste tchécoslovaque, Alexander Dubček, a affirmé vouloir donner un visage humain au socialisme. Alors 50 ans après, que reste-t-il de ce 1968 à Prague, aujourd'hui capitale de la République tchèque ? Grand reportage signé Alexis Rosenzweig.
Début 68, la chanteuse Marta Kubišová est au sommet de sa gloire. Elle est belle et sa voix fait partie de la bande-son de la période du printemps de Prague, de ces années 60 pendant lesquelles souffle un vent de liberté en Tchécoslovaquie.
Le printemps de Prague, c'est la meilleure chance qu'on ait jamais eue d'établir la troisième voie dont on avait tellement rêvé.
L'historienne française Muriel Blève travaille à l'Institut tchèque pour l'étude des régimes totalitaires.
L'idée, c'était de rétablir l'espoir original, l'espoir de 45-48 en 68, d'où l'idée de socialisme à visage humain. Quelque chose qui soit entre une version dictatoriale et brutale du communisme sous la forme du stalinisme et la démocratie de l'époque, qui n'était pas aussi démocratique qu'aujourd'hui, mais quand même. C'était comme si le rêve d'avoir un régime qui conjuguerait tous les droits sociaux, tout le soutien des gens en matière... en matière économique et sociale, pouvait se conjuguer à la liberté, en fait. À la liberté de parole, à la liberté de mouvement, etc. Et donc, c'était quelque part extraordinaire, parce qu'on avait l'impression que ça allait être possible.
Un des points souvent mentionnés comme essentiel au moment du printemps de Prague, c'est l'abolition de la censure. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, ça a été une version très courte, mais très intense, de communisme sans censure. Donc, de tous les avantages du communisme, si on peut dire, qu'on désigne en général plutôt sous le terme de socialisme, d'ailleurs, parce que c'est moins péjoratif, sans les inconvénients, quoi. Et donc ça a été un moment un peu magique, mais qui n'a pas duré très longtemps.
Voyons tout de suite comment se présente la situation en Tchécoslovaquie à cette heure-ci.
Eh bien, la Tchécoslovaquie s'est réveillée ce matin étroitement enserrée dans le dispositif des troupes soviétiques et de leurs alliés qui ont poursuivi l'occupation méthodique du pays et pris progressivement...
Ce sont les chars qui viennent mettre un terme à ce moment magique en présence des médias du monde entier, dont France Inter.
Selon certaines rumeurs, M. Dubček aurait été emmené en Union soviétique.
Pour moi, 1968 a marqué le moment où j'ai réalisé que la Tchécoslovaquie ne pouvait pas changer son régime sans intervention de l'Union soviétique. Et c'est la raison pour laquelle je suis partie.
Miloslava Slavičková avait 34 ans lorsque la Tchécoslovaquie fut envahie par les armées de l'URSS et d'autres pays du pacte de Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août 1968. Elle, son mari... et ces deux enfants en bas âge ont pris le chemin de l'exil, comme des dizaines de milliers de leurs concitoyens, dont certains des plus illustres, comme l'écrivain Milan Kundera ou le réalisateur Miloš Forman. Avant de finalement demander avec sa famille l'asile politique en Suède, le mari de Miloslava a d'abord trouvé du travail en Espagne. Ils sont partis en janvier 1969, quelques jours avant la mort tragique de l'étudiant pragois Jan Palach, qui s'est immolé pour inciter la population à réagir contre l'occupation.
Après, ce qu'on a appelé la normalisation du régime a commencé et j'ai réalisé que je ne pourrais pas rentrer. Le monde occidental s'intéressait à ce qui se passait chez nous, mais peu de monde était en mesure de le comprendre et personne n'était prêt à risquer quoi que ce soit pour nous. De Suède, où j'habite toujours, j'ai fait ce que je pouvais au sein de la fondation de la Charte 77 pour soutenir les autres exilés et les dissidents restés au pays, dont le plus brillant d'entre eux, Václav Havel. Le régime m'a désigné officiellement comme ennemi du peuple tchécoslovaque. Et je dois dire que ça m'a blessé. Ça n'avait rien de plaisant du tout.
A ja vlastně Musím teda říct, že mě to zabolelo, že mě to bylo velmi nepříjemné.
Est-ce que le fait que l'actuel président de la République tchèque, Miloš Zeman, soit aujourd'hui considéré comme un grand ami de la Russie, de Vladimir Poutine, est-ce que ça vous préoccupe aujourd'hui?
To mě vadí 100%. Já si myslím, že ten Poutine vlastně jde cestou.
Oui, ça me gêne beaucoup. Je pense que Poutine aujourd'hui ne va pas employer la manière forte contre l'Occident. Mais plutôt que d'envahir militairement, la Russie d'aujourd'hui veut infiltrer et diviser la société, notamment en encourageant l'euroscepticisme. Avant, nous avons eu comme président Klaus, l'eurosceptique. Puis Miloš Zeman est arrivé en faisant d'abord flotter le drapeau européen sur le château de Prague. Mais soudainement, il a réorienté sa politique vers Moscou de manière significative. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très désagréable. Et je n'ai toujours pas compris comment il a réussi à se faire réélire.
Já jsem absolutně nemohla pochopit, že někdo volil Zemana ještě.
Alena Gebertová travaille depuis de nombreuses années pour la radio publique tchèque. En 1968, elle étudiait le français à l'université Charles de Prague.
On est au café Slavia, un café, disons, fétiche, qui a accueilli sous le communisme, beaucoup de personnalités qui se donnaient rendez-vous dans ce café, par exemple. Bah, ça va, bien entendu, et ses amis. Mais moi-même, en tant qu'étudiante, je n'y allais pas très souvent, mais il y avait d'autres cafés où j'allais.
Alors, en tant qu'étudiante, justement, qu'est-ce que ça représente, cette époque qu'on appelle le printemps de Prague?
C'était une des plus belles époques de ma vie, certainement. C'était une époque où tout était possible. On a cru que tout allait être possible. En 68, j'étais en dernière année. Et puis, on l'a senti, mais surtout, il y avait une effervescence culturelle. Il y avait beaucoup de journaux, il y avait beaucoup de rencontres. On pouvait entendre des propos intelligents, enfin. Je dis, c'était une période de grâce pour moi.
Qu'est-ce que vous pensez des comparaisons qui peuvent être faites entre le mai 68 français et le printemps de Prague tchécoslovaque?
Alors, je n'aime pas du tout ces parallèles. Je dois dire qu'à l'époque, on s'intéressait, nous, assez peu à ce qui se passait en France. On ne le comprenait pas. Et puis, avec le recul, je pense que vraiment, on ne peut pas faire de parallèles. C'était tellement différent, à mon sens. Il y avait, je pense, en France, il s'agissait d'un mouvement à caractère social, culturel peut-être, tandis qu'ici c'était vraiment politique. Les retombées ont été aussi très différentes, n'est-ce pas? Très différentes.
Est-ce que c'était naïf? Je pose cette question naïf parce que avec 50 ans de recul, on a l'impression que la société tchèque voit Alexander Dubček comme un grand naïf. Est-ce que c'était naïf à l'époque?
Alors à l'époque, quand on vivait cette période-là, ce n'était certainement pas naïf parce que je dis que c'était un tel souffre de liberté, de possibilités, de tout. Alors avec un recul, on peut croire que c'était naïf, mais à l'époque, on le percevait pas comme ça.
Beaucoup de gens de cette époque disent, mais de toute façon, à quoi bon donner un visage humain à un monstre? Vous en pensez quoi? Le socialisme à visage humain?
Oui, maintenant on le voit comme ça, mais à l'époque on a pensé que peut-être que ça allait être possible, mais on ne savait pas comment ça allait s'arrêter. Ça a dépassé ces changements au sein du Parti communiste. C'était vraiment comme une avalanche qui aurait pu continuer.
Et beaucoup de cette époque sont aujourd'hui choqué par le fait que le Parti communiste actuel s'approche du pouvoir ou puisse être dans une potentielle coalition gouvernementale. Est-ce que ça vous gêne également?
Bien sûr, ça me gêne beaucoup, mais il y a plein d'autres choses qui me gênent aussi. Ce sont les extrémistes de droite qui sont pour moi aussi dangereux, parce que je ne pense pas que les dangers ou de mauvaises choses se répètent forcément. Il y a d'autres écueils, d'autres dangers, d'autres risques qui nous gâtent maintenant.
Le drame de la Tchécoslovaquie, stupeur et réprobation dans le monde. Mais Prague ne s'incline pas, son gouvernement somme les envahisseurs de retirer leurs troupes. Le président Johnson lance aux Russes un appel dans le même sens.
Tomáš Nigoň est historien. Après la chute du communisme en 89, il s'est intéressé de très près au printemps de Prague et à son écrasement. Il a rencontré plusieurs dizaines de témoins de l'époque et notamment des responsables politiques et militaires, des diplomates et même certains anciens dirigeants du KGB. Il n'a pas encore publié le fruit de toutes ses recherches et rencontres, mais son futur ouvrage s'annonce comme un document de référence pour une vue d'ensemble de la période.
La Tchécoslovaquie était le seul pays du pacte de Varsovie avec l'Allemagne de l'Est à avoir une frontière commune avec un pays de l'OTAN, à savoir l'Allemagne de l'Ouest. La tension était très forte entre les deux blocs. Et il faut voir dans les événements de 1968 une résultante des épisodes des années précédentes, notamment la crise de Cuba et la guerre des six jours au Proche-Orient. L'URSS n'en est pas sorti vainqueur et cela a renforcé l'importance pour Moscou de la frontière occidentale de la Tchécoslovaquie, où la présence militaire soviétique était assez faible avant l'invasion, d'après ce que m'ont dit les généraux que j'ai rencontrés. La réalité géopolitique était telle que les États-Unis ne pouvaient pas intervenir sans risquer de provoquer une troisième guerre mondiale. Les Tchèques le voient aujourd'hui comme un certain abandon, mais c'était impossible. Le bloc communiste ne pouvait pas s'effondrer tant que Moscou ne s'effondrait pas, ce qui s'est ensuite produit entre 1989 et 1991.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces entretiens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans ces conversations que vous avez pu avoir dans les années 90 avec ces acteurs de l'époque?
Tam byla zajímavá věc, kterou jsem zažil při debatách s bývalým velvyslancem Sovětského svazu.
Il y a eu cette conversation intéressante que j'ai eue avec Tchervanienko, qui était l'ambassadeur soviétique en poste en Tchécoslovaquie pendant le printemps de Prague et son écrasement. Il m'a confié que le Kremlin avait brièvement envisagé de séparer la Slovaquie, fidèle à Moscou, de la Tchéquie, qui était plus réformatrice. L'idée était toujours de faire en sorte de garder un cordon sanitaire, c'est-à-dire de ne jamais avoir de frontières communes entre l'Union soviétique et un pays qui pourrait faire partie du bloc occidental. Mais les événements se sont enchaînés trop vite et les Russes ont abandonné cette idée au profit d'une solution plus radicale que la partition de la Tchécoslovaquie, à savoir son invasion militaire.
Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny.
République tchèque et Slovaquie sont bien deux États indépendants aujourd'hui, après leur séparation en douceur intervenue en 93. Et dans ces deux pays, les débats sur le printemps de Prague ne sont pas vraiment passionnés. L'Europe centrale ne veut pas regarder son passé communiste en face. C'est le titre d'une tribune publiée il y a quelques mois dans le quotidien français Le Monde par l'historienne Muriel Blève.
Le printemps de Prague, ça devrait être un bon souvenir, mais en fait, le bon souvenir a été quand même très perturbé par la fin brutale mise à ce bon moment, d'une part. Et d'autre part, on est quand même dans un contexte où on ne peut pas exprimer une mémoire positive du communisme. Et le printemps de Prague, c'est une mémoire positive du communisme. C'est après tout un des rares moments où le communisme a été archi populaire, enfin vraiment très populaire. Et on ne peut pas vraiment en parler parce que ça ne rentre dans aucun discours d'aujourd'hui.
Le souvenir ne reste que celui du traumatisme causé par l'invasion. Est-ce que ça laisse à penser qu'on va beaucoup plus en parler une fois que l'été va arriver et la date fatidique du 21 août va approcher, à votre avis?
Je pense que oui. On va certainement là, parce que ça, du coup, ça va rentrer dans les cadres de la présentation en termes de victimisation, d'un peuple qui a beaucoup souffert du communisme. Donc là, du coup, ça va rentrer dans le discours d'aujourd'hui sur le passé communiste.
Vous avez publié une tribune dans ce sens dans un journal français, à savoir que le regard aujourd'hui sur la période du communisme est Vous me dites si je me trompe, en partie instrumentalisée par les pouvoirs en place dans les différents pays d'Europe centrale. C'est le cas aujourd'hui à Prague ?
Je dirais qu'il est plus instrumentalisé par les courants anticommunistes, qui certaines fois sont au pouvoir, ce qui est le cas en Pologne et en Hongrie. D'autres fois ne sont pas particulièrement au pouvoir, c'est le cas ici. Donc ici, c'est plus une domination de la sphère publique, du débat public en ce qui concerne le communisme. D'ailleurs, le fondateur de mon institut, qui a été écarté après, mais juste pour vous donner une idée de l'idéologie qui a présidé à la fondation de cet institut, disait que un communiste est un communiste, qu'il ait été communiste en 1952, en 1968 ou en 1985, ça n'a fait aucune différence. Et donc tous les communistes sont mauvais, en gros. Et donc ça, oui, effectivement, ça rentre tout à fait dans un cadre où le communisme est considéré comme étant mauvais dans son ensemble, sans établir aucune différence chronologique, et aussi sans établir aucune différence entre les gens, entre ce que ça a pu représenter pour certaines couches sociales par rapport à d'autres, etc. Là, on ne fait aucune différence et tout est mauvais.
En ce moment, au Musée des Arts Décoratifs à Prague, est à voir une exposition qui met tout le monde d'accord. Le photographe Josef Koudelka y retrace une partie de sa carrière et présente surtout ces clichés inoubliables de l'invasion de 1968 qui l'ont fait connaître dans le monde entier avant que lui aussi ne soit contraint à l'exil. La chanteuse Marta Kubišová avait quant à elle fait le choix de rester. La prière pour Marta, interprétée contre l'invasion, elle attendra novembre 89 pour enfin l'entonner a cappella devant une foule émue aux larmes. Cette chanson est aujourd'hui encore reprise en chœur par les manifestants. À chaque fois que la démocratie leur paraît menacée, à Prague, mais aussi plus récemment à Bratislava, après l'assassinat d'un journaliste. Que la paix reste avec ce pays. Ainsi commencent les paroles de ce morceau qui reste encore 50 ans après l'hymne officieux de deux pays distincts que sont aujourd'hui la Tchéquie et la Slovaquie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Prague, 50 ans après son printemps. Un reportage signé Alexis Rosenzweig, réalisation Pierre Chaffangeau.
Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí se pusou. Modlitba má ta ať mu promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Lidé navrátí.